Volume 2, section 11. Pensée antique en costume moderne. La science moderne est la pensée antique déformée et rien de plus. Nous avons vu toutefois ce que pensent les savants qui ont de l'intuition et à quoi ils sont occupés. Maintenant, nous allons donner au lecteur quelques nouvelles preuves de ce fait que plus d'un membre de la société royale se rapproche inconsciemment de ces sciences secrètes dont on se moque tant. En ce qui concerne la cosmogonie et la matière primordiale, les spéculations modernes représentent incontestablement la pensée antique, perfectionnée par des théories contradictoires d'origine récente. La base tout entière appartient à l'astronomie et à la physique antique de la Grèce et de l'Inde, auxquelles jadis on donnait toujours le nom de philosophie. Dans toutes les spéculations ariennes et grecques, nous retrouvons la conception d'une matière non organisée, homogène et pénétrant tout, ou du chaos, que les savants modernes ont baptisé de nouveau sous le nom de conditions nébulaires de la matière du monde. Ce qu'Anaxagore appelait le chaos, dans son Nomoyomeria, est appelé aujourd'hui le fluide primitif par Sir William Thomson. Les atomistes hindous et grecs, Canada, Leucippe, Démocrite, Épicure, Lucrèce, etc., sont maintenant reflétés comme dans un miroir limpide par ceux qui défendent la théorie atomique actuelle, commençant avec la monade de Leibniz et finissant avec les tourbillons d'atomes de Sir William Thomson. Note, les tourbillons élémentaux inaugurés par le mental n'ont pas été améliorés par leur transformation moderne. Fin de la note. Il est vrai que l'ancienne théorie corpusculaire est repoussée et que la théorie ondulatoire a pris sa place. Mais toute la question est de savoir si cette dernière est si solidement établie qu'elle ne puisse être détrônée comme celle qui l'a précédée. La question de la lumière, sous son aspect métaphysique, a été longuement traitée dans Isis dévoilée. Citation. La lumière est le premier-né et la première manifestation du suprême, et la lumière est la vie, disent l'évangéliste et le kabbaliste. Toutes les deux sont l'électricité, le principe de vie, l'anima mundi, qui pénètre l'univers, le principe vivifiant électrique de toute chose. La lumière est le grand magicien protéen et sous l'impulsion de la divine volonté de l'architecte, ou plutôt des architectes, les constructeurs appelés collectivement un, ces vagues multiples et omnipotentes donnèrent naissance à toutes les formes ainsi qu'à tous les êtres vivants. Note. J'ai été souvent pris à partie pour avoir employé dans Isis des expressions dénotant la croyance à un dieu personnel et anthropomorphe. Ce n'est pas mon idée. Dans le langage kabbalistique, architecte est le nom générique des séphirotes, les constructeurs de l'univers, de même que le mental universel représente la collectivité des manteaux dianchoaniques. Fin de la note. De son sein électrique qui se gonflait, jaillir la matière et l'esprit. Dans ces rayons se trouve la source de toute action physique et chimique et de tous les phénomènes cosmiques et spirituels. Elle vitalise et désorganise. Elle donne la vie et cause la mort, et de son point primordial naissent graduellement à l'existence les myriades de mondes, corps célestes visibles et invisibles. Ce fut à un rayon de cette première mère, une en trois, que, suivant Platon, Dieu alluma un feu que nous appelons maintenant soleil, et qui n'est pas la cause de la lumière et de la chaleur, mais simplement le foyer, pourrions-nous dire la lentille au moyen de laquelle les rayons de la lumière primordiale sont matérialisés, sont concentrés sur notre système solaire et produisent toutes les corrélations des forces. Fin de citation. C'est là l'éther, comme on vient de l'expliquer dans les théories de Metcalfe, répétées par le docteur Richardson, sauf que le premier accepte certains détails de la théorie ondulatoire moderne. Nous ne prétendons pas démentir cette théorie. Nous affirmons seulement qu'elle a besoin d'être complétée et refondue, mais les occultistes sont loin d'être les seuls hérétiques en cette matière, car M. Robert Hunt trouve que, citation, « la théorie ondulatoire n'explique pas les résultats de ses expériences ». Sir David Brewster, après avoir démontré dans son Treatise on Optics que les couleurs de la vie végétale naissent d'une attraction spécifique que les particules de ses corps exercent sur les rayons de lumière de couleurs différentes, et que c'est par la lumière du soleil que sont élaborés les sucs colorés des plantes, que les couleurs des corps sont échangées, etc., fait remarquer qu'il n'est guère facile d'admettre que de tels effets puissent être produits par la simple vibration d'un milieu éthéré. Il est forcé, dit-il, par cette catégorie de faits, de raisonner comme si la lumière était matérielle. Le professeur Josiah Cook, de l'université de Harvard, dit qu'il ne peut être d'accord avec ceux qui considèrent la théorie des ondes de la lumière comme un principe établi de la science. La doctrine d'Herschel, d'après laquelle l'intensité de la lumière, par rapport à chaque ondulation, est inversement proportionnelle au carré de la distance qui la sépare du corps lumineux, si elle est correcte, fait un grand tort à la théorie ondulatoire, si même elle ne la tue pas. Le fait qu'il a raison a été prouvé maintes fois au moyen d'expériences faites avec des photomètres et la théorie ondulatoire, bien qu'elle commence à être fortement mise en doute, est encore vivante. Fin de citation. On aurait beaucoup de choses à dire en réponse à cette remarque de Sir David Brewster qui se déclare « forcé de raisonner comme si la lumière était matérielle ». Dans un sens, la lumière est certainement aussi matérielle que l'électricité elle-même, car si l'électricité n'était pas matérielle, si ce n'était qu'un mode de mouvement, comment pourrait-on l'emmagasiner dans les accumulateurs de forêt ? Helmholtz déclare que l'électricité doit être aussi atomique que la matière, et W. Crookes appuya cette manière de voir dans le discours qu'il adressa à Birmingham en 1886, à la section de chimie de la British Association, dont il était le président. Voici ce que dit Helmholtz. Citation. Si nous acceptons l'hypothèse d'après laquelle les substances élémentaires sont composées d'atomes, nous ne pouvons éviter d'en conclure que l'électricité, elle aussi, tant positive que négative, est divisée en fractions élémentaires distinctes qui se comportent comme des atomes d'électricité. Fin de citation. Il nous faut ici répéter ce que nous avons déjà dit dans la section 8, à savoir qu'il n'y a qu'une seule science qui puisse désormais diriger la recherche moderne dans l'unique voie qui la conduira à la découverte de la vérité, restée occulte jusqu'à présent, et c'est la plus jeune de toutes, la chimie, réformée comme elle l'est maintenant. Il n'y en a pas d'autre, sans même faire une exception en faveur de l'astronomie, qui puisse guider aussi sûrement l'intuition scientifique que peut le faire la chimie. Nous en trouvons des preuves dans le monde de la science. Deux grands chimistes occupant chacun le premier rang dans son pays, le professeur Crookes et le professeur Butleroff. L'un croyait sincèrement aux phénomènes anormaux, l'autre était aussi fervent spirit que célèbre par sa connaissance des sciences naturelles. Il est évident qu'en se livrant à des réflexions sur la divisibilité ultime de la matière et sur les recherches infructueuses jusqu'à présent auxquelles on s'est livré pour découvrir l'élément dont le poids atomique est négatif, le mental scientifique exercé du chimiste doit se sentir irrésistiblement entraîné vers ces mondes à jamais voilés, vers ce mystérieux au-delà dont les insondables abîmes semblent se refermer à l'approche de la main trop matérialiste qui tente d'écarter le voile qui les couvre. C'est l'inconnu et l'à jamais inconnaissable, déclare le moniste agnostique, à titre d'avertissement. Non pas, répond le chimiste persévérant. Nous sommes sur la piste et nous ne sommes pas intimidés. C'est volontiers que nous franchirons le seuil de la mystérieuse région que l'ignorance dit inconnue. Fin de citation. Dans son discours présidentiel de Birmingham, le professeur Crookes dit, citation, « Il n'existe qu'un seul inconnu, le dernier substratum de l'esprit, entre parenthèses l'espace. Ce qui n'est ni absolu ni l'unique est, en vertu même de cette différenciation, et si éloigné qu'il soit des sens physiques, toujours accessible au mental spirituel de l'homme, qui est une coruscation de l'intégrale qui ne peut être différenciée. » Fin de citation. Deux ou trois phrases par lesquelles il termine sa conférence sur « la genèse des éléments » prouvent que l'éminent savant est sur la route royale qui mène aux plus importantes découvertes. Il a étudié pendant quelque temps la question du protyle originel et il est arrivé à la conclusion que celui qui en saisirait la clé pourrait découvrir quelques-uns des plus profonds mystères de la création. Protyle, comme l'explique le grand chimiste, citation, est un mot analogue à protoplasme qui sert à exprimer l'idée de la matière primordiale originelle existant avant l'évolution des éléments chimiques. Le mot que je me suis permis d'employer dans ce but est composé de « avant » et « la matière dont les choses sont faites ». Le mot n'est guère un néologisme car il y a 600 ans, Roger Bacon écrivait dans son Arte Chimiae « les éléments sont tirés de et chaque élément est transformé en la nature d'un autre élément ». Fin de citation. Le savoir que possédait Roger Bacon ne fut pas donné à ce merveilleux magicien de jadis par inspiration, mais il l'acquit en étudiant d'anciens ouvrages sur la magie et l'alchimie, et parce qu'il avait la clé de la réelle signification des termes qui y étaient employés. Voyons cependant ce que Crookes dit du protyl, ce voisin immédiat de l'inconsciente, Mula Prakriti des occultistes. Citation. Partons du moment où naquit le premier élément. Avant ce moment, la matière, telle que nous la connaissons, n'existait pas. Il est également impossible de concevoir la matière sans l'énergie ou l'énergie sans la matière. À un certain point de vue, ce sont des termes convertibles. Avant la naissance des atomes, toutes les formes d'énergie, qui deviennent évidentes lorsque la matière agit sur la matière, ne pouvaient avoir existé. Elles étaient renfermées dans le protyl, comme de simples potentialités latentes. En même temps que furent créés les atomes, tous les attributs et toutes les propriétés qui permettent de distinguer entre eux les éléments chimiques furent appelés à l'existence pleinement douée d'énergie. Note 1. Ainsi, ce que l'auteur de cet ouvrage disait il y a 10 ans dans Isis dévoilée était prophétique, à ce qu'il paraît. Voici ses propres paroles. Un grand nombre de ces mystiques, en suivant les enseignements qu'ils tiraient de traités secrètement mis à l'abri et transmis d'une génération à l'autre, firent des découvertes qui ne seraient pas méprisées, même à notre époque de science exacte. Roger Bacon, le moine, était tourné en ridicule comme charlatan, et on le classe généralement de nos jours au nombre de ceux qui prétendaient posséder l'art magique. Mais ces découvertes n'en furent pas moins acceptées et sont utilisées aujourd'hui par ceux qui se moquent le plus de lui. Roger Bacon appartenait de droit, sinon de fait, à la fraternité qui comprend tous ceux qui étudient les sciences occultes. Comme il vivait au XIIIe siècle, et était par suite presque le contemporain d'Albert le Grand et de Thomas d'Aquin, ses découvertes, telles que celles de la poudre et des verres optiques et des travaux mécaniques, furent considérées par tous comme des miracles. On l'accusait d'avoir fait un pacte avec le mauvais. Fin de la note. Avec tout le respect qui est dû au profond savoir du conférencier, l'occultiste s'exprimerait autrement. Il dirait qu'aucun atome n'est jamais créé, car les atomes sont éternels dans le sein de l'unique atome, l'atome des atomes. Considéré durant le Manvantara comme le Jagat Yoni, la matrice cause du monde. Pradhana, la matière non modifiée, ce qui constitue la première forme de Prakriti ou la nature matérielle, tant visible qu'invisible, et Purusha, l'esprit, sont éternellement un. Et ils sont nirupadi, c'est-à-dire sans qualité accidentelle ou attribut, seulement durant le pralaya, et lorsqu'ils se trouvent au-delà de tous les plans de conscience d'exister. L'atome, tel que le connaît la science moderne, est inséparable de Purusha, qui est l'esprit, mais qui est maintenant appelé énergie par la science. L'atome protyl n'a été ni réduit en petits fragments ni subtilisé. Il est simplement passé dans le plan qui n'en est pas un, mais qui est l'état éternel de toute chose au-delà des plans de l'illusion. Purusha et Pradhana sont tous deux immuables et inconsumables, et Aparanamin et Avyaya dans l'éternité. Et on peut les appeler tous deux, durant les périodes mayaviques, Vyaya et Parinamin, c'est-à-dire ce qui peut prendre de l'expansion, passer et disparaître, et ce qui est modifiable. Dans ce sens, Purusha doit, cela va sans dire, être distingué de Parabrahman dans nos conceptions. Néanmoins, ce que la science appelle énergie ou force, et ce que Metcalfe a décrit comme étant une force double, n'est jamais en fait et ne peut pas être de l'énergie seule, attendu que c'est la substance du monde, son âme, Sarvaga, qui imprègne tout en conjonction avec Kala, le temps. Les trois constituent la trinité en un, durant le Manvantara, l'unité toute puissante qui agit comme trois choses distinctes sur Maya, le plan de l'illusion. Dans la philosophie orphique de l'ancienne Grèce, on les appelait Phanès, Chaos et Chronos, la triade des philosophes occultes de cette période. Voyez à quel point Crookes effleure de près l'inconnaissable et quelle potentialité renferment ses découvertes pour l'acceptation des vérités occultes. Parlant de l'évolution des atomes, il continue. Citation. Arrêtons-nous à la fin de la première vibration complète et examinons-en le résultat. Nous avons déjà découvert comme éléments l'eau, l'ammoniac, l'acide carbonique, l'atmosphère, la vie végétale et animale, le phosphore pour le cerveau, le sel pour les mers, l'argile pour la terre solide, des phosphates et des silicates en quantité suffisante pour un monde et ses habitants qui ne différeraient guère de ce dont nous jouissons actuellement. Il est vrai que les habitants humains seraient appelés à vivre dans un état de simplicité plus qu'acradienne et que l'absence de phosphate de chaux serait embarrassante en ce qui concerne les os. Note, c'est précisément l'existence de tel monde sur d'autres plans de conscience qui est affirmée par l'occultiste. La science secrète enseigne que la race primitive était dépourvue d'os et qu'il existe des mondes invisibles à nos yeux, peuplés comme l'est le nôtre, en outre des populations de Dian Shuan. Fin de la note. À l'extrémité inférieure de notre courbe, nous découvrons un grand hiatus. Cette oasis et les lacunes qui la précèdent et la suivent peuvent être attribuées, selon toute probabilité, à la façon particulière suivant laquelle notre Terre s'est développée pour devenir un membre de notre système solaire. S'il en est ainsi, il se peut que ces lacunes ne se produisent que sur notre Terre et non pas d'une façon générale dans tout l'univers. Fin de citation. Cela justifie plusieurs assertions que contiennent les ouvrages occultes. Primo, que l'on ne peut considérer ni les étoiles ni le soleil comme constitués par les éléments terrestres qui sont familiers aux chimistes, bien que ces éléments soient tous représentés dans les enveloppes extérieures du soleil, en même temps qu'une légion d'autres éléments qui jusqu'à présent sont inconnus de la science. Secondo, que notre globe possède son propre laboratoire spécial situé sur les limites extrêmes de son atmosphère, de sorte qu'en le traversant, chaque atome et chaque molécule changent et se différencient de leur nature primordiale. Tertio, enfin, que bien qu'aucun des éléments présents sur notre Terre ne puisse faire défaut dans le Soleil, il y en a là beaucoup d'autres qui n'ont pas encore atteint notre globe ou qui n'y ont pas encore été découverts. Quelques éléments peuvent faire défaut dans certaines étoiles et dans certains corps célestes en cours de formation, ou bien tout en y étant présents, ces éléments, par suite de leur état actuel, peuvent ne pas se révéler encore aux tests scientifiques actuels. Extrait de Five Years of Theosophy. Le professeur Crookes parle de l'hélium. Note, l'hélium fut obtenu en 1895 par Sir William Ramsay. L'hélium, élément dont le poids atomique est encore plus faible que celui de l'hydrogène, élément purement hypothétique en ce qui concerne notre Terre, mais qui existe en abondance dans la chromosphère du Soleil. La science occulte ajoute qu'aucun des éléments que la chimie considère comme tel n'est réellement digne de ce nom. Plus loin, Crookes parle en termes approbatifs des « arguments de poids du docteur Carnelly en faveur de la nature composite de ce que l'on appelle les éléments, d'après leurs analogies avec les racines composites ». Jusqu'à présent, l'alchimie seule, durant la période historique et dans ce que l'on appelle les pays civilisés, a réussi à obtenir un réel élément ou une particule de matière homogène, le Mysterium Magnum de Paracelse. Toutefois, cela se passait avant l'époque de Lord Bacon. Note. Crookes dit, dans le même discours, « La première énigme que nous rencontrons en chimie est celle-ci. Qu'est-ce que les éléments ? Parmi toutes les tentatives faites jusqu'à présent pour définir ou expliquer l'élément, aucune ne satisfait les exigences de l'intellect humain. Les manuels nous disent qu'un élément est un corps qui n'a pas été décomposé, que c'est une chose à laquelle nous pouvons ajouter mais de laquelle nous ne pouvons rien retrancher, ou un corps qui augmente de poids avec chaque modification chimique. De telles définitions sont peu satisfaisantes à deux points de vue. D'abord, elles sont provisoires et peuvent cesser d'être applicables dès demain dans une circonstance donnée. Ensuite, elles sont basées non pas sur un attribut quelconque de la chose à définir, mais sur des limites de la puissance humaine. Elles équivalent à un aveu d'impotence intellectuelle. Fin de la note. Reportons-nous à la partie supérieure du schéma. Avec l'hydrogène, dont le poids atomique est égal à 1, il y a peu de place pour d'autres éléments, sauf peut-être pour l'hypothétique hélium. Mais que se passera-t-il si nous traversons le miroir et si nous allons au-delà du zéro, à la recherche de nouveaux principes. Que découvrirons-nous de l'autre côté du zéro? Le docteur Carnelly demande un élément dont le poids atomique soit négatif. Il y a là amplement place pour une série spectrale de non-substantialité de ce genre. Helmholtz dit que l'électricité est probablement aussi atomique que la matière. L'électricité est-elle l'un des éléments négatifs et l'éther lumineux en est-il un autre? La matière telle que nous la connaissons maintenant n'existe pas ici. Les formes d'énergie qui sont apparentes dans les mouvements de la matière ne sont encore que des possibilités latentes. Une substance d'un poids négatif n'est pas inconcevable, mais pouvons-nous nous former une conception claire d'un corps qui se combinerait avec d'autres dans des proportions qui seraient exprimables par des qualités négatives? Note. Le conférencier cite Sir George Airy, qui dit dans Faraday's Life and Letter, volume 2, page 354, « Je puis aisément concevoir qu'il y ait autour de nous un grand nombre de corps qui ne soient pas soumis à cette action mutuelle et qui par suite ne soient pas soumis à la loi de gravitation. » Note 2. La philosophie védantique le conçoit. Toutefois, ce n'est plus alors de la physique mais de la métaphysique que M. Tyndall qualifie de poésie et de fiction. Fin des notes. Une genèse des éléments telle que celle que nous venons d'esquisser ne serait pas limitée à notre petit système solaire, mais passerait probablement par la même série d'événements dans chacun des centres d'énergie actuellement visibles sous forme d'étoiles. Avant la naissance d'atomes susceptibles de graviter les uns vers les autres, aucune pression ne pouvait être exercée, mais sur les confins de la sphère de brouillard de feu dans les limites de laquelle tout est protile, au milieu de la croûte sur laquelle la terrible force qu'implique la naissance d'un élément chimique exerce toute son action, l'ardente chaleur serait accompagnée d'une gravitation qui suffirait à empêcher l'élément nouveau-né de s'échapper dans l'espace. À mesure que la température s'élève, l'expansion et le mouvement moléculaire augmentent, les molécules tendent à se disperser et leurs affinités chimiques sont étouffées, mais la pression énorme produite par la gravitation de la masse de matière atomique, en dehors de ce que j'appellerais pour être bref la coquille de naissance, contrebalancerait l'action de la chaleur. Au-delà de cette coquille se trouverait un espace dans lequel aucune action chimique ne pourrait se produire parce que la température y dépasserait ce qu'on appelle le point de dissociation des composés. Dans cet espace, le lion et l'agneau reposeraient côte à côte, le phosphore et l'oxygène se mélangeraient sans s'unir, l'hydrogène et le chlore ne manifesteraient aucune tendance à des liens plus étroits et le fluor lui-même, ce gaz énergique que les chimistes n'ont pu isoler qu'il y a un mois ou deux, flotte librement sans se combiner. En dehors de ce centre de matière atomique en liberté se trouverait une autre coquille dans laquelle les éléments chimiques constitués se seraient assez refroidis pour atteindre le point de combinaison et la succession d'événements si clairement décrits par M. Matthew Williams dans The Fuel of the Sun se produirait alors pour aboutir à la Terre solide et au début de l'époque géologique. Cela n'est autre que la description de l'évolution de l'univers différencié que donnent les enseignements secrets, reproduite dans un langage strictement scientifique mais superbe. Le savant termine son discours en des termes dont chaque phrase est comme un éclair de lumière venant d'au-delà du sombre voile de matérialité qui couvrait jusqu'à présent les sciences exactes et constitue un pas en avant vers le sanctorum sanctorum de l'occulte. Il dit par exemple « Nous nous sommes rendus compte de la difficulté de définir un élément. Nous avons constaté aussi la révolte de beaucoup de physiciens et de chimistes marquant contre l'acception ordinaire du mot « élément ». Nous avons pesé l'improbabilité de leur éternelle existence ou de leur formation due au hasard. Comme dernière alternative, nous avons suggéré que leur origine pourrait être due à un processus d'évolution semblable à celui par lequel passent les corps célestes, selon Laplace, et les plantes et animaux de notre globe, selon Lamarck, Darwin et Wallace. Dans l'ensemble des éléments, tels que nous les connaissons, nous avons découvert une ressemblance frappante avec le monde organique. Faute de preuves directes de la décomposition d'un élément quelconque, nous avons cherché et trouvé des preuves indirectes. Nous avons ensuite jeté un coup d'œil sur la théorie de la genèse des éléments. Et enfin, nous avons passé en revue le déroulement de leur origine suggéré par la méthode qu'emploie le professeur Reynolds pour illustrer la classification périodique. Note. Cette méthode, pour illustrer la loi périodique dans la classification des éléments, est, suivant les propres paroles de Crookes, proposé par le professeur Emerson Reynolds de Dublin, qui fait remarquer que, dans chaque période, les propriétés générales des éléments diffèrent entre elles avec une assez grande régularité, jusqu'à ce qu'on arrive au septième élément, qui contraste d'une façon plus ou moins frappante avec le premier élément de la même période, comme avec le premier de la période suivante. Ainsi le chlore, septième élément de la troisième période de Mendeleïev, contraste nettement, aussi bien avec le sodium, premier élément de la même série, qu'avec le potassium, premier élément de la série suivante. Tandis que d'autre part, le sodium et le potassium ont de grandes analogies entre eux. Les six éléments dont les poids atomiques sont compris entre ceux du sodium et du potassium varient pas à pas dans leurs propriétés, jusqu'à ce que l'on atteigne le chlore qui fait contraste avec le sodium. Mais du chlore au potassium, l'analogue du sodium, le changement de propriété s'effectue per saltum, c'est-à-dire par un bond, c'est-à-dire une grande différence soudaine. Si nous reconnaissons donc un contraste plus ou moins marqué entre le premier et le dernier élément de chaque série, nous ne pouvons guère nous empêcher d'admettre l'existence d'un point moyen de variation dans chaque système. En général, le quatrième élément de chaque série possède les propriétés que nous pourrions nous attendre à rencontrer dans un élément de transition. Aussi, pour établir une représentation graphique, le professeur Reynolds considère-t-il que le quatrième membre d'une période, le silicium par exemple, peut être placé au sommet d'une courbe symétrique qui représentera pour cette période spéciale la direction suivant laquelle les propriétés de la série d'éléments varient en même temps que leur poids atomique augmente. Or, l'auteur confesse humblement sa complète ignorance de la chimie moderne et de ses mystères, mais elle est assez familiarisée avec la doctrine occulte qui traite de la correspondance des types et des antitypes dans la nature et de la parfaite analogie comme étant une loi fondamentale de l'occultisme. Elle se hasarde donc à faire une remarque qui frappera tous les occultistes, bien qu'elle puisse être tournée en ridicule par la science orthodoxe. Cette méthode d'illustrer la loi périodique par le comportement des éléments, que ce soit déjà ou non une des hypothèses de la chimie, est une loi des sciences occultes. Tout occultiste instruit sait que le septième et le quatrième membre, que ce soit dans une chaîne septénaire de monde, dans la hiérarchie septénaire des anges ou dans la constitution de l'homme, de l'animal, du végétal ou de l'atome minéral, que le septième et le quatrième membre, disons-nous, jouent toujours, dans les manifestations géométriquement et mathématiquement uniformes des lois immuables de la nature, un rôle distinct et spécifique dans le système septénaire. Depuis les étoiles qui scintillent là-haut dans les cieux, jusqu'aux étincelles qui s'échappent du grossier foyer édifié par le sauvage au milieu de ses forêts, depuis les hiérarchies et la constitution essentielle des Dian Shoan, organisées pour des conceptions plus divines et un champ de perception plus sublime que ne l'a jamais rêvé le plus grand des psychologues occidentaux, jusqu'à la classification de la nature des espèces parmi les plus humbles insectes, enfin depuis les mondes jusqu'aux atomes, tout dans l'univers, du grand au petit, avance dans son évolution spirituelle et physique suivant un processus cyclique et septénaire, dans lequel le septième et le quatrième nombre, ce dernier constitue le point tournant, se comportent de la même façon que celle qui nous est signalée dans cette loi périodique des atomes. La nature ne procède jamais per saltum. Aussi, lorsque Crookes fait remarquer à ce propos qu'il ne désire pas tirer cette conclusion que les lacunes qui existent dans les tables de Mendeleïev et dans leur représentation graphique, le diagramme qui indique l'évolution des atomes, signifie nécessairement qu'il y a des éléments existant réellement pour remplir ces lacunes, que celles-ci peuvent simplement signifier que lors de la naissance des éléments, il existait une facile potentialité pour la formation d'un élément qui aurait occupé cette place. Un occultiste lui ferait respectueusement observer que cette dernière hypothèse ne pourrait tenir que si cela ne portait pas atteinte à l'organisation septénaire des atomes. Telle est l'unique loi et la méthode infaillible qui conduira toujours au succès celui qui la suivra. Fin de la note. Si nous résumons toutes les considérations ci-dessus, nous ne pouvons vraiment pas nous hasarder à affirmer que nos prétendus éléments ont été évolués en partant d'une matière primordiale unique, mais nous pouvons soutenir, je crois, que l'équilibre des preuves fait suffisamment pencher la balance en faveur de cette théorie. Ainsi, la science inductive, dans ses branches de l'astronomie, de la physique et de la chimie, en marchant timidement à la conquête des secrets de la nature dans ses effets ultimes sur notre plan terrestre, se reporte aux époques d'Anaxagore et des Chaldéens, par les découvertes qu'elle fait, petit a, de l'origine de notre monde phénoménal, et petit b, des modes de formation des corps qui composent l'univers. Comme leurs hypothèses cosmogoniques les obligent à en revenir aux croyances des philosophes primitifs et à leurs systèmes, et comme ces systèmes étaient tous basés sur les enseignements d'une doctrine secrète universelle, en ce qui concerne la matière primordiale, ses propriétés, ses fonctions et ses lois, n'avons-nous pas le droit d'espérer que le jour n'est pas loin où la science appréciera la sagesse des anciens plus sainement qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent? La science moderne peut assurément enseigner beaucoup de choses à la philosophie occulte, mais elle peut d'autre part profiter dans bien des cas du savoir antique, surtout en cosmogonie. Elle peut apprendre, par exemple, la signification mystique, alchimique et transcendantale des nombreuses substances impondérables qui remplissent les espaces interplanétaires et qui, en s'entremêlant, sont la cause directe, à l'extrémité inférieure, de la production des phénomènes naturels qui se manifestent, par ce qu'on appelle les vibrations. La connaissance de la nature réelle, et non pas de la nature hypothétique de l'éther, ou plutôt de l'aquasha, et d'autres mystères, peut, en un mot, seule conduire à la connaissance des forces. C'est cette substance contre laquelle l'école matérialiste des physiciens se révolte avec une telle fureur, particulièrement en France, et que la science exacte doit néanmoins défendre. Note, un groupe d'électriciens vient justement de protester contre la nouvelle théorie de Clausius, le fameux professeur de l'université de Bonn. Le caractère de la protestation nous est révélé par la signature qui porte « Jules Bourdin, au nom du groupe des électriciens qui eurent l'honneur d'être présentés au professeur Clausius en 1881 et dont le cri de ralliement est « Abat l'éther ». Il réclame le vide universel comme vous voyez. » Fin de la note. Les savants ne peuvent l'écarter sans courir le risque de jeter bas les piliers du temple de la science, comme de modernes sans-sons, et d'être ensevelis sous ses décombres. Les théories basées sur le rejet de la force extérieure et indépendante de la matière pure et simple ont toutes été reconnues comme fallacieuses. Elles ne peuvent tout expliquer et ne l'expliquent pas. Aussi bon nombre des données scientifiques sont-elles reconnues comme étant anti-scientifiques. L'éther a produit le son, disent les Puranas, et l'on se moque de cette affirmation. Le son est le résultat des vibrations de l'air, nous déclare-t-on. Or, qu'est-ce que l'air? Pourrait-il exister s'il n'y avait pas dans l'espace un milieu éthérique pour soutenir ces molécules? Voici ce qui se passe. Le matérialisme ne peut admettre l'existence de quoi que ce soit en dehors de la matière, attendu que s'il acceptait une force impondérable, source et origine de toutes les forces physiques, il se trouverait virtuellement dans l'obligation d'admettre d'autres forces intelligentes, ce qui mènerait la science très loin. En effet, il lui faudrait comme conséquence admettre la présence dans l'homme d'une puissance encore plus spirituelle, indépendante cette fois de tout genre de matière qui soit connue des physiciens. Aussi, à part un éther hypothétique de l'espace et à part les corps physiques grossiers, tout l'espace sidéral et invisible n'est, aux yeux des matérialistes, qu'un vide sans fin de la nature, vide aveugle, inintelligent et inutile. La question suivante est celle-ci. Quelle est cette substance cosmique? Et jusqu'où peut-on aller pour en sonder la nature, ou pour lui arracher ses secrets, en se croyant ainsi autorisé à lui donner un nom? Jusqu'où? Surtout? La science moderne a-t-elle été dans la direction de ces secrets et que fait-elle pour leur donner une solution? Le dada le plus récent de la science, la théorie nébulaire, peut nous fournir un peu réponse à cette question. Examinons donc les lettres de créance de cette théorie nébulaire.